Ok, en petit comité, mais je suis très, très heureux d'avoir l'opportunité de vous présenter maintenant trois, mais il y a une quatrième qui arrive, professeur enseignant.
Enseignant.
Enseignant, excuse-moi. Mais, ça va être un peu dans le domaine des arts numériques, design, graphisme, qui tout dans une manière différente et spécifique travaille depuis des années déjà.
Et on peut dire ça.
avec des logiciels libres. Et voilà, je présente Loïc van Maastricht, Stéphane Noël et Michel Klempo, qui va et on va commencer avec présenter un peu les différentes façons que les logiciels libres sont utilisés dans les cours qu'ils donnent. C'est aussi pas mal, je crois, d'expliquer un petit peu le type d'école, le type d'enseignement. Et aussi, on parle un peu d'un projet de réseau des écoles d'art qui travaille avec des logiciels libres. Ou c'est en fait pas le réseau, c'est un peu une inter-école, mais Stéphane va expliquer.
Oui, je parle un peu plus
de ça. Mais peut-être que tu veux commencer avec ça.
Ok, et bien voilà, en fait, dans une école d'art, une des. Enfin, comme d'ailleurs ça devrait aller dans toutes les écoles d'art, comme dans toutes les écoles, mais les écoles d'art sont assez spécifiques, il y a une demande, un besoin constant de porosité entre le monde extérieur et l'intérieur de l'école. C'est un enjeu tant au niveau des professeurs même de l'école, c'est-à-dire qu'en tant que professeur dans une école d'art, je donne un nombre d'heures moins élevé que je ne le devrais en tant que d'autres professeurs dans le secondaire, universitaire, etc. On donne un salaire plus élevé, certes, parce que je suis conférencier, mais en tout cas, ils ont un certain nombre d'heures qui est peut-être plus faible qu'on l'a dans d'autres types d'enseignement, parce que ce qui est demandé à l'intérieur d'une école d'art, c'est d'avoir une pratique que l'on importe à l'intérieur de l'école et liée à un réseau que l'on importe à l'intérieur de l'école. Donc, cette demande dans une école d'art, comme moi je donne cours à l'ERG, c'est le cas aussi de Marc Poitieu, tu donnes cours à...
Moi je donne cours dans une académie et un people à Caen.
Oui, en tout cas, et lui il donne cours à Mons. Et donc, dans ces écoles, voilà, il y a un besoin de faire réagir l'école avec ce qui est autour. Ce sont des écoles d'art, et donc l'art ne peut pas travailler en cloisonnement particulièrement. Et donc voilà. Donc la difficulté qu'on a rencontrée il y a quelques années, Marc Poitieu, moi-même et d'autres professeurs ici, c'est que, à l'intérieur des écoles d'art, comme dans les écoles professionnelles, moi j'ai une expérience de workshop des écoles professionnelles, les étudiants sont assez attachés à apprendre des logiciels propriétaires parce que c'est ce qui leur permettrait de trouver un emploi plus tard notamment. C'est-à-dire que je me souviens de Yen Singo, que vous connaissez certainement, qui avait débarqué dans une septième travail orientée travaux de bureau. Donc des gens étaient en train de se dire « Putain, je suis en train de complètement louper ma vie l'année prochaine, je serai baqué hors de l'enseignement et je n'ai rien dans les mains. » Donc ces gens venaient faire une septième année en espérant grappiller de quoi venir travailler comme secrétaire dans un bureau. Et il y avait Yen Singo qui débarque en disant « Laissez tomber Windows, vous devez apprendre Linux et OpenOffice. » Et ces étudiants disaient « Mais je m'en fous, moi, je veux apprendre Excel et Word parce qu'avec ça, on me donnera un job. » Et lui disait « Laissez tomber ça, vous devez apprendre. » Il disait « Tu ne comprends pas la réalité, arrête, ne dis pas ça. » Enfin bon, bref. Donc, les gens sont très attachés à apprendre ça. Donc, si vous êtes dans une école d'art, publique, de bon milieu familial, pas du tout des gens qui vivent dans Molenbeek, dans des petites rues, avec des salaires de misère, etc. Donc, milieu de l'art, jeunes Zuclois, etc., ordinateur Mac de dernière génération, eh bien, ils ont le même réflexe que de dire « Mais si je ne connais pas InDesign, je ne serai jamais engagé dans une bonne agence. » Et donc, il y a le même repli autour de logiciels propriétaires, parce que c'est eux qui donnent une espèce de stabilité dans la formation, parce que d'autre part, dans une école d'art, on ne reçoit pas un diplôme qui vaut quoi que ce soit à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire qu'on vous dit « Je suis diplômé de », tout le monde s'en fout, on vous demande « Qu'est-ce que tu es capable de faire ?» Et donc voilà, donc il y a cette frilosité-là, et qui est, par certains aspects, indépassable, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'initier quelque chose d'autre. Et donc, comment casser un peu cette logique-là. À l'intérieur des cours d'art numérique qu'on donne, puisque Marc Poitieu et moi-même donnons un cours d'art numérique, on a commencé à utiliser naturellement des logiciels qui ne sont pas des logiciels propriétaires, notamment moi parce que je travaille sur du codage HTML et CSS, et que moi je suis passé au lib sans même m'en rendre compte en fait au cours de l'année. Dreamweaver que j'utilisais en 2000-2001, je me suis dit à un moment donné, c'est chiant ce truc qui réécrit mon code derrière moi, etc. Donc j'ai backé ce truc et j'ai trouvé naturellement des éditeurs de code open source, et donc je suis passé dans l'open source sans même voir que je le faisais. Et donc naturellement j'importe aussi ces méthodologies là à l'intérieur de mon cours. Et ensuite, on essaie d'avoir une attitude un peu plus active par rapport à ça, puisque toutes les questions qui tournent autour du logiciel libre, la distribution, etc., enfin, la distribution, la licence libre, le copyright, etc., ces choses-là, font partie de choses qui sont hyper importantes culturellement aujourd'hui, et donc, en tant qu'artiste, elles sont interrogantes. Donc, voilà, ça permet à partir de choses assez spécifiques, qui sont des logiciels, de parler de tout de ce qu'il y a autour. Mais à l'extérieur de ces cours d'art numérique spécifiquement, l'école dans laquelle on bosse a beaucoup de choses autour de cette petite section art numérique, et notamment toute une section de graphisme dans laquelle il est très difficile d'initier quoi que ce soit, ou même de parler, d'utiliser autre chose que la suite Adobe. Et donc, c'est pour ça que Marc a eu cette idée d'introduire Open Source, Open Course, qui sont une espèce de petite journée, comme on les trouve autour de Linux, comme on les trouve autour d'initiatives Open Source, mais adressées spécifiquement à des écoles d'art en disant, voilà, il y a des ouvertures qui sont destinées à vous et qui vous permettent de travailler avec des choses qui sont de l'ordre d'Open Source. Parce qu'on a l'impression que, pour peu qu'on connaisse un peu, bah oui, les serveurs tournent en Apache, c'est merveilleux, mais on n'en a rien à foutre de travailler en ligne de commande. Nous, on est des gars de la souris et du raccourci clavier. Donc, il y a quelque chose autour de ça. Vous voulez en venir ?
Oui, en fait, vous avez rebondi parce que je pense qu'il y a des choses aussi. Moi, je donne cours à l'ESAP, l'École supérieure des arts plastiques et visuels de Mons, mais je donne cours aussi à la Cambre, à Jacquard, etc. Donc, je connais bien les différences entre les écoles et les similitudes aussi entre les écoles. Et donc, je pense que d'abord, c'est bien de. Je pense qu'il y a une importance de la structure de l'école, entre l'ERP, d'une part, et la Cambre ou Mons. La structure est très différente. Je pense que la structure à l'ERP devrait favoriser plus la communication et la collaboration entre les profs, tandis qu'à Mons et à Lacan, la structure elle-même ne favorise pas, parce que c'est structuré par atelier, et donc chaque maître règne sur son territoire et n'est pas obligé d'ouvrir son territoire.
Pyramidal.
C'est complètement pyramidal. C'est la section des. C'est une structure comme dans les beaux-arts, il y a la peinture, la sculpture. Même si maintenant tous les étudiants font de la vidéo, tous les étudiants font de l'installation, ils sont inscrits en dessin, en peinture, en art numérique. Donc ça n'a plus beaucoup de sens, il faudrait penser ça aussi, je pense. Donc ça c'est une chose, et je pense aussi dans les écoles comme la Grande Mons, on est encore tributaire de la pensée des beaux-arts, donc du monde francophone, latin, etc. Et on n'a pas du tout intégré justement la dimension « Et voilà Marc Poitieu !» Et donc...
On n'a pas intégré la dimension
anglo-saxonne du Rose, de la... le dialogue art et technologie. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 15 ans que je suis dans les écoles et ça fait 15 ans que j'entends encore les mêmes arguments. Oui, mais qu'est-ce que vous travaillez ? On est toujours vu un peu comme des techniciens suspects parce qu'on travaille sur des machines. Et quand on parle d'introduire des cours de programmation, parfois, encore maintenant, enfin, il y a 10 ans c'était la catastrophe, mais maintenant, encore, il y a des résistances incroyables. C'est comme si. Donc, je pense aussi que les écoles, ça évolue très lentement. Les profs, une fois qu'ils sont en place, il faut quasiment qu'ils meurent pour céder leur place. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas des structures qui favorisent l'évolution rapide, la discussion, etc. Et donc, par exemple, il y a eu. Ça c'est d'une part une chose par rapport aux écoles d'art supérieures. Je pense qu'il faudrait changer la structure. Il faudrait obliger. Beaucoup plus favoriser la discussion, le fait qu'on ne reste pas là 30 ans dans la même place, etc. etc. Donc, il faudrait qu'il y ait des moyens à mettre en place à ce niveau-là. Et alors, pour rebondir aussi sur ce que disait Stéphane, je pense effectivement qu'en général, dans les écoles, ce qu'on appelle le numérique a été introduit dans des sections de communication visuelle, de PAO, de graphisme, qui en général ne sont pas des gens qui s'intéressent à la politique ni à l'éthique, mais plutôt au contraire, on cultive plutôt l'originalité, l'individualité,
le fun, le look.
C'est pas un hasard si tous ces gens, moi aussi, on a commencé à travailler en Mac, etc. Et Mac était vraiment la machine, encore pire que Windows, qui cachait le fait que c'était un ordinateur parce qu'il était joli, convivial, intuitif.
Et fin.
Tout était fait, tout est toujours fait pour qu'on oublie justement qu'on travaille sur un ordinateur et qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur. Et donc, je pense que d'un côté, il y a. Et donc, dans les sections comme ça, il y a une ambiguïté. Par exemple, dans l'armée médicaments, c'est très clair qu'on a un profil d'étudiant. Certains, c'est plus graphisme et uniquement graphisme. Dès qu'on parle de programmation, ils sont très difficiles et ils résistent très fort. Et d'autre côté, je pense qu'on aborde effectivement, on découvre vraiment aussi, je pense qu'on a une trajectoire pas semblable, mais qui a des points communs. C'est à partir du moment où tu t'intéresses au code, à la programmation, au web, là tu comprends, ouais, même très pragmatiquement l'utilité de l'open source parce que tu commences à aller chercher des infos, etc. Et donc c'est là où ça change ta vision. Et c'est vrai que dans les profils d'étudiants, il y a ce clivage. Et c'est beaucoup plus facile de parler des licences, de l'open source, des ressources sur le web avec les étudiants qui s'intéressent à la programmation, avec les étudiants qui sont les plus autonomes, c'est-à-dire que tu leur montres trois sources et elles viennent la semaine prochaine, ils sont plus loin de toi. Quoi, tu vois, ils sont plus montés, c'est les étudiants qui font plaisir. Donc il faut tenir compte de ces choses-là. Quoi. Et puis je pense que dans chaque école, c'est aussi en fonction des gens qui sont en place que ça évolue. Quoi, parce que ça dépend comment tu conçois l'enseignement. Est-ce que tu as le savoir et les étudiants sont là pour le reproduire, bien l'appliquer ou pas, ou est-ce que le savoir c'est quelque chose qui se partage, que tu montres, etc. et que tu conçois bien que tu n'es pas le maître.
Je suis curieux, parce que c'est un peu un public différent, je crois.
Ouais.
Aussi, je crois que les étudiants viennent avec une autre.
Oui, il n'y a pas du tout le côté, en fait, voilà, je donne un cours à l'Académie d'Uccle, et ce qui s'est passé, bon, c'est la fin de la quatrième année, quand j'ai commencé à donner cours là-bas, donc comparé à d'autres académies, l'Académie d'Uccle, c'est une académie qui a absolument pas de budget, rien du tout. Quand j'ai commencé, on me dit, donne un cours d'infographie, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, j'arrive dans une salle vide, après deux semaines, on me donne un portable, c'était un peu une catastrophe. Donc on s'est arrangé. Alors pour le premier cours, qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est vraiment un public qui n'est pas du tout réceptif à la technique. Donc tout ce qui est côté technique, ça les intéresse pas du tout. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a commencé à acheter des pièces détachées pour faire les machines les moins chères possibles, pour au moins avoir des ordinateurs. Donc la première année, on a vaguement fonctionné avec des programmes propriétaires. À un moment, je me suis dit, c'était la catastrophe, parce que les gens n'ont pas du tout cet aspect technique. Donc même pour passer les programmes, pour qu'ils puissent travailler, alors des gens qui ont des Mac PowerPC, des gens qui ont des Mac Intel, des gens qui ont Windows machin, des gens qui ont ci, à un moment je me suis dit, bon, ça va pas du tout, les gens ne savent pas installer, je dis, je vais complètement passer à l'open source, plutôt que m'amuser à craquer des programmes que la commune de toute façon ne me fournissait pas, je dis, bon, je vais passer intégralement en open source. Et donc c'est là que j'ai commencé, alors c'est vrai que c'était dans le cadre d'infographie, c'était beaucoup plus vers l'image imprimée. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser GIMP, Inkscape, et bon, c'est un peu plus compliqué, Scribus. Et finalement je me suis rendu compte que ça marchait assez bien, par exemple GIMP, et surtout Inkscape, je trouve des gens par exemple qui sont pas du tout habitués à un logiciel, je trouve qu'ils ont vraiment les gens découvrent ça en disant, mais c'est excellent, je vais comparer à Illustrator par exemple, qui est une espèce de montagne beaucoup plus complexe, les gens arrivent à le prendre en main plus facilement. Et ici, bon, je vais essayer un petit peu autre chose cette année, alors comme je trouvais que ça fonctionnait quand même bien, finalement, bon, par rapport au public, les gens ne se posaient pas la... Bon, même si je dois expliquer petit à petit, voilà, qu'on travaillait là-dessus, que chacun peut télécharger ses programmes, les installer selon leur machine. Et ici, l'intitulé va changer donc l'année prochaine, art numérique. Je me suis dit, comme ça fonctionnait, j'essaie d'étendre ça à la photo et à la vidéo. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'avec OSV, à un moment, bon, j'ai testé un peu ce petit programme qui s'appelle Kden Live. Et je me suis dit, bon, pour des petits montages, ça simple, surtout l'école n'a pas de moyens, les gens ne sont pas vraiment orientés vers une technique. Et dur, et je me suis dit,
voilà, pas dans un profil professionnalisant non plus.
Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que pour les heures que je donne à Caen, là j'ai eu un rapport différent avec les étudiants. Et là, ce qui est assez drôle, voilà, les gens font parfois je parle à l'académie, des petits films avec l'appareil photo, avec le GSM. Et je me suis dit, voilà, un programme comme Kden Live, c'est excellent, c'est basé sur FFmpeg, ça lit un nombre de codecs. Je me dis, on met n'importe quelle vidéo, ça la lit, c'est relativement stable. Et je me suis dit, pour des petits montages, c'est pas mal.
Parce que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de raisons différentes pour introduire la logique libre dans l'enseignement. Mais le projet Open Course Open Source m'intéresse même plus fort parce que c'est pensé comme entre écoles, en fait. C'est pas le programme de ERC qui est
non.
Ben, je crois que
plutôt entre individus qu'entre écoles.
Oui, ça va.
Je parle un peu de ça ou pas?
Oui, pour introduire. Ouais.
Mais, disons qu'à l'ERC, il y a peut-être une situation qui est plus déclenchante parce que c'est très. Il y a beaucoup d'initiatives.
École de recherche graphique.
Voilà,
l'école
de recherche graphique, c'est une école dans laquelle Stéphane, moi et Yves Bernard, on voit des étudiants qui sont intéressés donc, par l'art numérique, mais qui cherchent aussi à construire leurs outils, etc. Donc à dépasser les pratiques standards. Et donc, vous avez peut-être touché un mot de processing, peut-être.
Pas encore.
Ça, c'est un logiciel qui fonctionne au code uniquement, qui est très ouvert et qui permet des applications très nombreuses dans le domaine du son, de l'image, de la programmation en général. Et assez rapidement, c'est un outil qu'on peut prendre en main, que les étudiants adoptent, je trouve, dans des conditions très simples. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est, comme tu viens de le dire, pour des problèmes de plateforme, d'OS différents, de trucs vraiment au bordel insondable. À un certain moment, avec Michel, on réfléchissait un peu à des projets comme ça qui pourraient impulser quelque chose de différent. Et donc Open Course, Open Source, c'est un label, on va dire, de qualité, oui, on peut dire ça comme ça, mais non, c'est plutôt un label nomade qui est destiné, c'est un début, parce qu'on n'a pas encore été dans toutes les écoles, évidemment.
C'est le but.
Voilà, c'est le but. C'est un label nomade, comme une espèce de workshop ou de cours nomade, qui propose aux écoles d'art que ça intéresse, bon, il y a des gens à voir, hein, mais dans différents réseaux. Donc il y a potentiellement beaucoup d'écoles d'art qui ne se posent pas des questions d'outils de création libre ou propriétaire spécialement. Donc c'est une espèce de caravane nomade qui se propose de débouler dans l'école pendant un jour et de proposer une série de présentations, de plateformes de rencontres, d'activités, on va dire, de création, bien pour le moment c'est encore très très neuf, de manière à confronter les étudiants et les écoles d'art à ces questions-là. Pas tellement pour prêcher la bonne parole, parce que je trouve que ça a toujours un côté plombant d'essayer de démontrer que tel logiciel ou que telle filière est meilleure. Non, c'est pas ça. Je vois plutôt ça dans une notion. Les écoles d'art, il est admis qu'avec un crayon et une feuille A4, on peut dessiner. C'est une technologie ancestrale, tout le monde l'a intégrée, elle a fait ses preuves. Et donc, les écoles d'art qui initient les étudiants à la créativité et au dessin, par exemple, c'est une situation qui est satisfaisante, qui est admise.
Oui,
par contre,
outre ça, on peut révolutionner à un moment les pratiques artistiques d'une époque, par exemple le dessin spécifiquement,
voilà,
revient très très fort maintenant, donc on peut avoir une pratique qui soit vraiment up-to-date, qui soit fun, qui soit révolutionnaire avec des outils extrêmement...
Voilà, et donc très concrètement, comme tu viens de le dire, cette pratique-là, elle est questionnée, renouvelée dans la gestuelle, dans les supports, Disons que c'est une situation qui peut être considérée comme admise, ça prête à débat, mais les écoles d'art initient au dessin avec une ambition de actualiser. Par contre, au niveau des outils numériques, c'est absolument pas le cas. Pourtant, il y a des précédents identiques que dans le dessin. Enfin, si on prend un exemple qui peut frapper les esprits, Jackson Pollock, il a démontré comment faire exploser le schéma habituel du dessin, de la peinture. Dans le logiciel libre,
comment faire pour se construire ses propres outils, non, dans le logiciel de création en général, comment faire pour se construire ses propres outils au-delà de l'outil qu'on peut trouver de manière standard. On peut aller chez Schlepper acheter un pinceau, mais on peut se construire un pinceau. Et puis on peut, au lieu de travailler sur une feuille A4, décrocher des affiches dans la rue et faire du dessin. Donc dans la même logique, le logiciel libre, pour les écoles d'art, c'est une question fondamentale à se poser autour des outils. Comment dépasser les pratiques admises, standards, pour que les étudiants puissent se réapproprier ces questions-là. Comment réinterroger un geste de dessin? Ben, voilà, comme on le disait à l'instant, il y a des questions qui sont naturellement posées, mais comment comment réinventer ou trouver un geste numérique original? Et le logiciel libre est fondamentalement l'endroit où se posent toutes ces questions. Alors après, avec des facilités diverses, enfin, c'est comme quand on veut construire, je ne sais pas, si on devait par exemple construire un spray de couleur, ben, on n'arriverait peut-être pas tout de suite au même résultat que ce qu'un industriel propose, mais on va trouver une autre solution. Donc si on veut se construire des outils numériques pour produire un geste numérique qui soit personnalisé, il faut se poser ces questions par rapport au logiciel. Et donc, Open Course, Open Source se propose de semer un peu un germe autour de ces questions qui sont présentes dans certaines écoles, comme on peut en témoigner, mais qui sont loin de faire la...
Comment dire... Sont loin d'aller de soi, de toute façon.
Oui, elles sont loin d'aller de soi, même dans les écoles où émergent ces questions. Voilà, on doit nous aussi apprendre sans arrêt des nouvelles pistes. Et puis l'idée d'Open Course Open Source, c'est de rassembler les gens qui sont motivés par de telles questions et de se transporter d'école en école pour échanger, partager des expériences, montrer des projets, essentiellement aussi utiliser les ressources locales dans les différentes écoles, parce qu'évidemment dans chaque école, il y a des gens qui se posent des questions de ce type, dont il est bon d'utiliser l'énergie en même temps pour impulser quelque chose de beaucoup plus formel et de beaucoup plus un cadre qui est vraiment révélé comme tel. C'est-à-dire, à la base, quand on a discuté au début, c'est vraiment poser la question de manière très formel à travers justement une journée événementielle qui serait éventuellement déclencheuse.
Moi je pense aussi que c'est plus un réseau entre individus qu'entre écoles, quoi. Parce que si on devait compter sur les écoles, on se posait ce genre
mais de... c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps les écoles c'est juste des structures en béton, il faut
ça dépend des individus qui sont dedans, qui sont d'accord et qui font des ponts.
Absolument, et c'est pour ça que le côté humain est important, la rencontre avec les étudiants, avec les professeurs. Le problème n'est pas d'essayer de convaincre comme si c'était, je sais pas moi, personnellement par exemple, je ne suis pas spécialement le représentant idéal de l'utilisation des logiciels libres. J'utilise n'importe quel genre de logiciel. Par contre, seul le logiciel libre permet de se poser des vraies questions sur l'utilisation des outils en général. Et donc les gens se rassemblent, c'est un début parce qu'il y a eu une première journée à l'air, puis une deuxième, puis alors j'ai porté ça à la Haute École Albert Jacquard, où je donne également cours. Il y a d'autres écoles qui sont susceptibles assez simplement d'accueillir cette initiative. Et le but c'est de faire une tournée des écoles et évidemment institutionnaliser, c'est toujours un mot très chiant, mais vraiment ça doit durer le temps que ça durera, mais d'impulser très formellement cette question pour qu'elle soit incontournable, parce qu'elle n'est pas naturelle dans
mais je pense aussi que l'intérêt de ça, c'est d'abord de créer des liens entre individus qui
absolument
qui sont vivent dans des écoles différentes et qui se posent les mêmes questions. Et là je pense que c'est aussi une question de on se connaît, on se rencontre là, on discute et tout, et ça c'est très bien. Et je pense aussi que l'intérêt, c'est d'aller de pousser plus loin, c'est pas seulement les outils, c'est que c'est la pédagogie du livre.
Oui, absolument. C'est justement très, voilà.
Que c'est interroger la pédagogie qu'il y a dans les écoles d'art supérieures ou pas supérieures. Et je pense que là, il y a une remise en cause vraiment aussi, que c'est comment on conçoit ce rapport-là.
Tout à fait.
Et l'open source peut vraiment changer, y compris la manière dont on considère l'art, l'enseignement, les critères de qualité.
Absolument.
Etc. Et là, il y a beaucoup.
Et c'est justement, c'est pour ça que je disais que moi-même, je ne suis pas spécialement un exemple d'utilisateur du livre très rigoureux, rigide. Non, j'utilise n'importe quel genre de logiciel. La question n'est même pas là. C'est que dans le logiciel libre, comme tu le disais, se posent toutes les questions à usage pédagogique et fondamentales. Qui permet à l'étudiant de, comment dire, d'annuler toutes les couches d'interface de code qui ne permettent pas de comprendre fondamentalement ce qui se passe, sauf avec ce type de logiciel qui pose après des tas de problèmes, mais dont la résolution est justement la condition d'une compréhension profonde.
Par rapport à ce côté pédagogique, je crois qu'il y a même quelque chose plus loin dans le logiciel libre, parce que ça change dans le logiciel, ça change la relation entre utilisateur et développeur, et potentiellement ça peut créer une autre relation entre outil et utilisateur,
et entre étudiants et professeurs.
Voilà, ça, je me demande, tu crois que ça donne aussi une autre relation entre...
Peut-être dans un deuxième temps, parce que les premiers épisodes, quand on bosse avec du libre, c'est de résoudre comment faire tourner ça, comment créer. Après, il y a un effet de communauté, justement, qui est de nature à rassembler les gens qui se posent ce type de questions, et peut-être dans un deuxième temps, je dirais, de s'adresser à des gens qui développent, parce que il faut être réaliste, dans les écoles d'art, d'ailleurs les étudiants qui viennent en art numérique, c'est certainement des gens qui sont intéressés par ce type de création, mais aussi qui proviennent d'autres filières, par exemple des filières, je ne sais pas moi, très concrètement, les étudiants les plus performants qui sont à l'ERP, il y en a un qui a fait une première année à l'ULB en informatique, qui trouvait ça très chiant, ça ne correspondait pas à son... Et donc, mais il a quand même un socle de formation acquise à l'extérieur. Et donc, il y a des apports comme ça qui sont très croisés. Et mis à part ce profil-là, il y a très peu de gens qui sont à même de, peut-être de discuter avec des développeurs au début, parce que ça paraît très abstrait. Mais très rapidement, pour reprendre le cas de Processing, chaque contributeur aussi... un film soit-il, rediffuse son programme, est amené à poser des questions sur le forum, du coup il y a des développeurs qui répondent ou des collaborateurs, et plus le niveau monte dans la pertinence du travail, dans la complexité de certains travaux, plus les différents publics sont amenés à communiquer, parfois même très simplement à travers des forums, ou la publication du code.
Je pense qu'à partir du moment où tu conçois dans ton enseignement, dans ta pratique, par exemple, tu montres aux étudiants le fait d'aller chercher des ressources en ligne, ouais, le fait de bien montrer que tout évolue, et surtout dans le numérique, ça évolue tout le temps. Tout le temps, tu relativises forcément l'importance du prof, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus celui par qui le savoir arrive, et de toute façon, ouais, on ne connaît pas tout, etc. Donc tu relativises ton espèce de compétence universelle dont tu es supposé, et en même temps, tu leur donnes les moyens, tu leur donnes quand même les moyens d'évoluer tout seul très vite, et aussi d'être indépendant, et donc et parfois d'aller plus vite que toi. Donc, c'est vrai que cette logique-là, très open source, elle change la pédagogie.
Oui, par exemple, je crois qu'il y a une des choses assez importantes par rapport à ça, c'est que le rôle du prof n'est plus de fait d'être celui qui domine une matière et qui le fait percoler vers les étudiants, mais celui qui peut aussi simplement par moment jouer le regard extérieur.
Et ça, moi qui atteins la quarantaine, je vois bien que la sédimentation du temps fait partie du travail même du prof. Le fait de bosser autour de matières artistiques depuis quelque chose comme 20 ans fait qu'à un moment donné, je peux voir des choses qui... Je peux voir un étudiant qui s'enfonce dans de la technique, par exemple. Je dis, ok, là, il y a un problème, tu commences à être dans un truc tellement pointu qu'il n'y a plus que toi et deux autres types sur la planète qui peuvent voir la relation, la différence entre cette ligne de code et celle-ci. Je dis, bon, voilà, l'art, ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir aussi avec la manière dont quelqu'un peut percevoir dans la matière visuelle, dans l'expérience qui fait de l'objet, quelque chose d'un rapport au monde. Et ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Et donc, il faut les prendre et les retirer et dire, regarde, à cette distance-ci, tes deux lignes de code, on ne voit aucune différence entre elles. Donc, c'est à cette distance-là que tu dois travailler maintenant, quitte à retourner dans ton code après. Et donc, ce boulot-là, très spécifique à la programmation en tant que telle, mais pas tellement éloigné finalement de gens qui commencent à travailler au glacis, à la peinture à l'huile, et qui sont en fond dans des détails techniques où à un moment donné, on se dit, tu es en train juste de devenir un espèce de petit maître crétin. Mais ce n'est pas intéressant du point de vue de l'art. C'est peut-être de ton point de vue d'ego, ça doit peut-être produire quelque chose d'intéressant, mais pas pour nous. Donc le travail du prof, c'est celui de faire ça. Et il peut être fait par énormément de gens qui sont juste capables de détecter ces moments. Et ça, c'est la pratique du professeur qui permet de détecter les moments où soit ils sont trop dans le « je voudrais faire ça », donc dans le projet et pas assez dans la matière, ce qui est un des problèmes récurrents dans une école d'art, particulièrement à l'air, qui est une école dans laquelle on a tendance à mettre la pensée très très haut par rapport au faire, ce qui est une des optiques de base qui est géniale mais qui a ses limites. Et donc, parfois de dire « ok, c'est très bien cette idée, mais mets ton nez là-dedans et va voir un peu ce que tu es capable de faire avec tes mains ». Et donc, et à l'inverse, d'aller rechercher des types qui sont en train de plonger pour leur dire « ok, reviens en arrière pour regarder cet objet, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça produit comme interaction entre ça et le monde, etc. » Et donc, le boulot du prof, il est là principalement. Alors que parfois, c'est noyé dans des aspects de formation technique qui place le prof dans une structure pyramidale de « je sais et je vous dis, etc. etc. »
Oui, je vous donne la recette.
Juste la recette. Dernièrement, avec un des étudiants, les plus brillants, on avait un débat justement sur lui, c'est un étudiant qui est très fort dans le copier-coller, il va dire tiens, telle librairie fait ça, telle autre fait ça, je les assemble et je produis un truc qui fait ça, mais en fait je ne sais pas du tout ce que magiquement quand je fais ça, et ben, ça produit cette forme qui est épatante, etc. Et il me demandait des conseils pour aller plus loin, etc. Je disais, je ne fonctionne pas de cette manière-là, moi je ne sais pas coder comme ça, je me sens tout à fait insécure quand je code de cette manière, j'ai besoin à un moment donné d'analyser un peu le code qui est produit, de pouvoir à la limite fabriquer, d'entrevoir comment je pourrais coder cette chose pour pouvoir l'utiliser. Je ne peux pas utiliser simplement des objets fermés comme ça, des espèces de boîtes noires, donc je sais que si je rentre une valeur, elle me sort quelque chose de l'autre côté. Qui est ça. Et donc, je dis, voilà, donc cette méthode que tu as là de travailler, ce n'est pas la mienne. Et donc, par rapport à ça, je peux juste t'aider à un moment donné à reprendre la partie du code et redéployer et t'expliquer un peu ce qui se passe dans cette portion de code-là. Mais si tu veux travailler sous forme de librairie, copier-coller, etc., tu iras probablement plus vite que moi en gardant tes propres outils, ta propre méthodologie. Et parce que moi, en tant que professeur en plus, j'ai besoin de pouvoir restituer un savoir et donc le comprendre à une strate un peu derrière toi pour pouvoir être efficace dans mon travail, j'estime. Et donc voilà, donc ça a été l'occasion d'expliciter cette méthode, enfin cette différence de méthodologie entre lui et moi, et de dire voilà, à des moments lui, il envoie les informations qui sont censées être bonnes, et de l'autre côté ça sort des trucs aberrants, et dans ces moments-là lui il coince, il dit je ne comprends pas pourquoi, il ne peut pas aller plus loin. Et moi je n'ai pas ce genre de problème parce que je pars dans des trucs où je code moi-même, donc je comprends, je peux débugger plus facilement mes propres projets. Mais à l'encontre de ça, je suis parfois beaucoup plus lent que quelqu'un qui s'appuie sur des masses de code héritées de d'autres et donc des économies d'échelle qui est une des bases de l'open source.
Et puis ce qui est obscur aussi, c'est que les étudiants qui commencent à s'engouffrer dans des projets assez complexes, personnellement, je trouve que c'est presque impossible à partir d'un moment, à part de passer que son temps à ça, de recomprendre la logique qui est en train de s'opérer, parce qu'il y a dans les programmes des tas de renvois dans différentes sections qui deviennent complètement obscures, surtout dans une école d'art où, disons que la programmation n'est pas conçue comme quelque chose d'aussi...
Il n'y a pas de cours de programmation.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire, dans un cours de programmation, il y a une logique qui est en place, ici c'est plutôt une logique de travail qui est mise en place pour obtenir un résultat, et qui d'une manière ou d'une autre empêche, mais moi ça ne me dérange pas, le prof d'aller suivre pas à pas tout ce qui se passe en disant ah, ouais, mais là tu pourrais faire. Moi je me sens même pas apte à j'ai pas une formation qui permettrait ça, mais d'aller vraiment corriger. C'est, ouais, pas, non, c'est non, vrai non. Que c'est pas comme ça que ça se passe, mais par contre ce que je trouve intéressant et compréhensible par tous, c'est le fait que par exemple donc un crayon, c'est une technologie qui a révolutionné quand même beaucoup de pratiques, une technologie basique qui semble familière, mais s'il fallait aujourd'hui, sans le savoir, qui a conduit à perfectionner cet objet, recréer la recette idéale justement pour faire que cette mine de plomb soit machin machin, ou bien comme tu le disais en, par exemple en peinture, qui est aussi un exemple très probant, toutes les techniques de chimie, de recettes physiques, etc., avec les outils, la fabrication de la couleur, ben, il y a peut-être des cours pour ça, qui apprennent des recettes. Mais dans une école d'art, la question ne se pose pas comme ça. C'est prendre un certain recul, se dire que voilà, on est face à une technologie dont il faut, d'une manière ou d'une autre, se réapproprier les fondements. Et c'est pour ça que je trouve que le terme de quand on peint ou quand on dessine, ce que tout le monde comprend, il y a un geste. Et donc, dans l'ordi, il y a aussi un geste, enfin dans la création numérique, il y a aussi un geste, mais qui ne veut pas dire un geste avec une souris ou un geste avec une tablette graphique. C'est un geste global qui implique l'entièreté de son corps, y compris des choix économiques, politiques, sociaux, dans un contexte d'art, évidemment. Et donc, du coup, de nouveau, le logiciel libre permet de se confronter à ce genre de questions de manière, évidemment, très très différente, y compris avec tout l'énervement et l'insatisfaction que ça peut provoquer, comme quand, je sais pas, je vais chez Schlepper, je vais m'acheter le kit du peintre amateur, ben je vais me retrouver chez moi, so what, j'ai un pinceau, des couleurs, une belle toile ou un bloc, c'est pas comme ça que ça va la vie. Donc si on fabrique ces outils, dans la fabrication, on est déjà en train d'effectuer ce geste. Et c'est ça qui me semble le plus, comment dire, qui aurait probablement une vocation de transmettre cette idée, qui pose ces questions fondamentales.
J'ai quelques questions dans ma petite liste, mais peut-être il y a des questions de vous.
Oui.
Oui. Mais...
Bon, moi, j'ai une question un petit peu plus directe, c'est à savoir comment est-ce que vous vous ressentez en tant qu'enseignant ? Est-ce que vous êtes toléré, appuyé, ou plus que ça, ou comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux instances qui prennent réellement les décisions ? Et est-ce que voilà, on est dans une zone de tolérance pour le moment, plus que dans une zone de compréhension même ?
Ben, à l'air qu'on est appuyé. Parce qu'on prend cette liberté, mais c'est très lié au tempérament des uns et des autres, et aux structures, comme vous semblez le sous-entendre. Mais c'est très, comment dire, pour prendre un autre exemple, à la Haute École Albert Jacquard, où je donne aussi cours, qui n'a pas la même finalité, c'est plutôt un enseignement professionnalisant, ben, paradoxalement, le libre est aussi appuyé, pas dans les mêmes conditions, mais d'abord parce que le web fondamentalement fonctionne avec des technologies qui évoquent le libre et qui sont à code ouvert. Et pour prendre un exemple encore plus précis, l'an dernier, le prof de 3D, là on est vraiment dans l'industrie de l'image avec une nécessité de coller, à force de problèmes insolubles que tu évoquais tout à l'heure, de plateformes d'OS qui ne lisent pas la bonne version du truc ou du machin, à un moment donné, le logiciel libre se pose comme la seule plateforme qui réunit tout le monde. Et même dans un contexte d'industrie, on peut arriver à des conclusions liées au logiciel libre et qui sont de fait, peut-être paradoxalement aussi... dire, promu dans une école qui serait plus liée à l'industrie, avec des comportements beaucoup plus attendus que dans l'école d'art où il y a de l'expérimentation. Mais bon, on n'est pas un échantillon représentatif des écoles d'art.
Mais à
Uccle,
ça va
Bah oui, bon, c'est vrai qu'à Uccle, salle d'atelier, j'ai une liberté totale. Mais à la Combe, par exemple, bon, là, c'était, on a parlé tout à l'heure, c'était complètement différent. C'est vrai qu'il y a un atelier d'art numérique où eux ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Oui, mais en même temps, bon, moi, je donne un cours comme conférencier en espace urbain, qui est un autre atelier, et c'est... mais à un moment, bon, dès qu'on aborde la technique, tout le monde croit que c'est super compliqué, mais rien que faut expliquer comment les choses fonctionnent. Je vais reprendre l'exemple d'Inkscape. Je vais montrer à un moment le code d'un SVG, de dire simplement, voilà, vous n'êtes pas obligé de comprendre toutes les coordonnées, les choses, de savoir que quand on trace un carré, finalement, c'est très logique. Et je dis, c'est pas derrière un programme, un truc incompréhensible. Et ça, je me dis, bon, à un moment, j'avais parlé du son aussi, simplement des compressions son, mais de façon bon, très très simple. Et à un moment, je me suis rendu compte bon, qu'il y avait quand même une réceptivité à ça à l'atelier, pour essayer un peu de désacraliser, parce que souvent les gens utilisent des logiciels, ont toujours l'impression que l'informatique c'est super compliqué. Enfin, parfois, j'ai l'impression que l'informatique propriétaire, c'est parfois super compliqué à coup de brevets, à coup de choses. Enfin, je peux prendre l'exemple encore une fois de la vidéo où les gens ont juste 10 players sur leur machine parce que l'un ne peut pas lire ça parce qu'il n'a pas le brevet pour ci, pour ça. Je dis finalement, c'est que des codecs expliquer comment ça fonctionne et comment c'est regroupé. Je veux dire, même simplement, bon, un jour j'avais l'air ridicule, mais c'est simplement un fichier texte OpenOffice qu'on édite et simplement voir comment il est structuré ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment, quand tu expliques ça simplement sans dire aux gens, bon, vous devez rentrer là-dedans, me montrer comment ça fonctionne, simplement le voir et en être conscient. Et c'est vrai que là, c'est vrai que j'ai eu ça avec le SVG, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce
mais format. Pour parler des institutions en tant que telles, j'ai l'impression qu'elles se comportent comme les milieux intello dans le début des années 2000 par rapport à l'informatique en général. Comment j'ai travaillé avec l'informatique depuis, je ne sais pas, 91, 92. D'abord en utilisant des petits logiciels comme tout le monde et puis en grappillant des savoir-faire au fur et à mesure. Comme je suis dans un milieu qui est plutôt un milieu artistique, j'ai des amis qui peignent, qui écrivent, etc. etc. J'étais longtemps la seule ressource pour tous ces gens-là qui étaient hyper réfractaires à toutes les formes d'informatique en général. Que ce soit le GSM qui est arrivé plus tard, que ce soit l'ordinateur, puis le mail, puis tout ce genre de choses. Je devais d'abord essuyer une première génération de mépris, dans lequel on disait « Ah, c'est l'informatique, etc. » Et puis, 2 ans plus tard, les gens arrivent en disant « Je dois acheter un ordinateur, tu peux m'aider ?» Et je disais « Ok, pas de problème. » Et donc après, ils disaient « Ah, le mail, ça dénature la beauté de la lettre, etc. » Puis 2 ans plus tard, « Je dois avoir un mail, tu pourras pas m'en assurer. » Donc j'ai eu par génération, comme ça, depuis, après Internet, Big Brother, « Tu peux, je dois, etc. » Donc, etc. Génération après génération, enfin, donc génération de 2 ans quasiment, on a fait la mise à niveau de tout ce milieu artistique qui est tout le temps en train de prendre des postures et puis devoir les abandonner en ayant dit qu'il ne les a jamais prises, etc. Bon, bref, donc un milieu extrêmement compliqué. Et les institutions ont un peu ce rapport-là actuellement. Et là, ils viennent de passer la partie réfractaire. J'ai l'impression, moi, ici, on m'a demandé de donner un cours à Saint-Luc, donc ici, pour destiné à des graphistes dans lesquels on me demande formeler à quelque chose qui soit des métiers du web parce qu'ils vont sortir et ils n'ont aucune connaissance dans ce domaine. J'ai dit, ok, ouais, j'ai remis un programme de cours dans lequel je dis, on va travailler avec que des outils libres. On ne va pas utiliser Dreamweaver parce que je ne me vois pas en tant que pédagogue dire « Ok, achetez votre licence de Dreamweaver et revenez un peu comme on dirait, vous devez acheter 7 bouquins
pour les cours. » Mais surtout que là, l'école n'intervient évidemment jamais. Mmh. C'est ça, ça aussi.
Ils sentent des enjeux là. Est-ce qu'ils commencent à parler de ça?
Oui, ils commencent à flipper.
C'est pas le problème
En fait, ils mixent. Les institutions ne voient pas très bien la différence entre un logiciel, une technologie, un apprentissage et des finalités commerciales. Donc, ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils disent « on vous fait confiance ». Là où avant, on aurait dit « vous allez travailler avec Dreamweaver », tu dis bah, « non enfin, ». Là maintenant, ils disent « on sait bien, vous êtes compétent, donc faites le meilleur truc pour eux
». Et puis, je pense que...
Il n'y a pas de résistance, il y a un appel plutôt. Il y a une demande de compétences.
Je pense que les institutions sont composées d'humains aussi, de femmes et d'hommes, etc. Et que selon les trajectoires aussi, on peut se retrouver par exemple dans une école avec une direction qui, pour certaines raisons, comprend mieux les enjeux. Je pense que c'était le cas par exemple à Jacquard.
Le
directeur est un pur manager, mais qui a une vision comme ça, et qui, tu lui expliques trois trucs sur l'open source, il a compris l'intérêt, y compris politique.
Oui, et puis surtout, dans ce cas-là, ce qui est frappant, c'est que ce sont des écoles qui doivent acheter des licences.
Oui, c'est ça. Et c'est aussi pour des raisons économiques.
C'est ça le truc, c'est que les écoles d'art, j'allais dire les vraies écoles d'art, c'est vraiment très con, mais les hautes écoles techniques, des étudiants de filières professionnalisantes, c'est évidemment pas la même chose qu'une école supérieure d'art, pas hiérarchiquement, mais voilà, conceptuellement c'est pas la même chose. Donc les hautes écoles techniques, par exemple j'étais cette année dans une école que je ne connaissais pas dans la région liégeoise, où j'étais amené à intervenir comme conférencier, la haute école Élie Troclet, je crois, 1000 étudiants, enfin comme à Namur, gigantesque, mais ils achètent des licences. Et dans les budgets, donc politiquement, économiquement, ils admettent que pour fournir un diplôme professionnalisant, il faut évidemment que les licences soient là. Alors, dans quelles conditions, ça c'est pas mon problème. Mais, bon. Mais un cas très particulier, de nouveau à l'ERGUE, il y a 3 ans, on a eu la chance de faire venir Yves Bernard à l'ERGUE, qui lui a une formation à la base d'ingénieur, mais je dirais une ingénierie de l'art. Bon. Et bien, à un moment donné, on se dit, bon, il faut qu'on ait des licences de Max MSP. Moi j'étais voir Yvan, le directeur, je lui ai dit, si tu veux qu'on bosse, file-nous au moins une licence. Plus tel plugin, machin, enfin, ça n'a jamais fonctionné, quoi. Parce que, mais par contre, si on allait lui demander, enfin par contre, si on allait lui parler d'obtenir des licences de logiciels propriétaires, il aurait la même réponse, parce qu'il n'y a pas de fric pour ça. Donc, moi je ne suis pas sur la planète Pure Data, mais on a quand même, on s'est dit, bon maintenant, on va bosser avec Pure Data, parce que ça ne sert à rien, on ne peut pas publier des travaux, les étudiants ne peuvent pas participer dignement à une communauté de création, s'il n'y a même pas une putain de licence de Max dans une école. Quoi. Donc, y a une différence entre les écoles qui sont dans une logique d'industrie et qui usent beaucoup d'argent, enfin, c'est bien, dans les licences, dans les écoles d'art, traditionnellement, c'est cacahuète pour les licences. Donc, cette contradiction-là pose question. Et il faut purger ce truc. Et donc, quand Yvan, le directeur de l'ERGUE, avec cette initiative d'open source, lui, sans pour autant rentrer dans les détails, il se dit « Ah ouais, non, très bien. » Parce qu'on trouve une solution à une situation que lui ne va jamais résoudre. Mais ça fait partie du jeu.
Ouais. Enfin, il n'y a pas de résistance.
Non, mais il ne faut pas voir les écoles comme des blocs monolithiques.
Non.
Il n'y a même pas l'ergue contre monde. Il y a des individus dans les écoles qui sont favorables. Voilà. Il y a des individus dans les écoles qui ne comprennent rien à rien, qui sont encore, comme décrivait Stéphane, des gens qui nous méprisent parce qu'on travaille avec une machine et qu'on est un petit peu vu comme
des techniciens. Qui refusent l'utilisation
du mail. C'est ça, t'as... Moi, j'ai un prof de communication visuelle qui n'a toujours pas d'email. Quoi. Donc, tu vois, ça va de dinosaures jusqu'à des gens qui comprennent politiquement, éthiquement. Donc, il y a tous les cas de figure. Il n'y a pas... et on ne peut pas dire... Enfin, si, il y a certaines écoles qui sont plus ouvertes et d'autres écoles qui sont complètement coincées. Je pense que s'il n'y a pas de représentant de la Cambre ici, franchement, c'est pas... mais c'est une question aussi de genre, d'histoire, de gens qui se croisent, etc. Et par exemple, un des trucs où je trouve qu'il y a une piste intéressante et qu'on est en train de chercher à développer à Mons, mais c'est compliqué, c'est dans le cadre du décret de Bologne, on doit trouver des synergies avec notamment des facultés universitaires pour pour des Master 2, etc. Et donc nous, c'est tout à fait un hasard, mais je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. On a pris contact avec la faculté polytechnique à Mons, dans laquelle il y a beaucoup de profs open source, comme souvent dans le monde scientifique. Et pour des raisons plus... on a déjà intégré, par exemple, dans le corps enseignant, deux personnes, Todor Todorov et Nicolas D'Alessandro, qui sont en un diplôme d'ingénieur. Nicolas D'Alessandro est à fond pro Linux. Todor, il travaille avec un peu de tout. Mais ça amène une autre logique aussi.
Oui, c'est formidable, justement, qu'à ce moment-là, l'art et la science rassemblent les gens. Plutôt, le logiciel libre rassemble des gens qui viennent de la sphère artistique et scientifique.
Mais ceci dit, avant qu'on puisse ouvrir un Master 2 qui soit vraiment une collaboration entre Polytech et les SAPV, ça va être hyper compliqué parce qu'on regarde les horaires de chaque... Il y a toute une question de... On est théoriquement, l'Europe va nous l'imposer, etc. Mais quand on regarde comment on le fait, même les étudiants qui sont le plus ouverts à la programmation, chez nous, ils sont au niveau processing, HTML, CSS, etc. Mais de là à savoir coder en Java, là à savoir du... Je termine. Et donc, dans la pratique, ça va être extrêmement compliqué. Ceci dit, on profite à fond de cette espèce de miracle qui fait que... Nous, quand on a été sonné à la porte de Polytechnique, on s'est dit, on va se faire jeter. Ils vont nous mépriser complètement, on voit les artistes les dégager. Non, ça s'est très bien passé. Entre autres, parce qu'au même moment, ils avaient rentré un projet qui s'appelle Numédiar, et qui est un projet où les scientifiques travaillent avec des artistes, avaient reçu des subsides de la région Wallonne pour ça et tout. Et nous, on venait sonner à ce moment-là. C'est un hasard historique, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'était comme ça. Donc, c'est là aussi où il n'y a pas de règles, c'est aussi des hasards. C'est l'évolution générale va dans le bon sens, mais c'est accéléré parfois par des rencontres comme ça, après un débat dans un bistrot, ou parce qu'on a besoin de tel ou tel truc, et on ose aller contacter les autres et tout. Tu vois, c'est ça.
Oui, il faut quand même à la base se bouger.
Oui, c'est ça.
Sinon.
On parle beaucoup de logiciels libres. Je me demande comment les licences libres sont vues par les étudiants ou comment vous présentez les licences libres aux étudiants. Est-ce qu'il y en a qui incorporent ça dans leur travail ou pas du tout?
Oui, donc. Par exemple, nous, on fait systématiquement, par exemple, dernièrement, on a projeté aux étudiants le film Good Copy, Bad Copy, qu'ils ont beaucoup aimé.
C'est fun,
c'était très drôle. Je ne sais pas s'ils ont capté les enjeux en profondeur, mais enfin, il y a eu un débat intéressant. Et puis, c'est vrai qu'historiquement, à Mons, on a quand même des profs qui abordent ça systématiquement. On leur en parle, nous, on leur en parle et tout. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des attitudes très drôles d'étudiants, c'est-à-dire... Puis Internet à fond, ils ne se posent pas la question, tout est à eux, etc. Puis tu leur dis sous quelle licence tu vas mettre ton truc. Et eux, c'est quand même mon idée, quoi. Je ne vais pas apporter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un. Ça veut dire qu'une minorité est intéressée vraiment à ça, la minorité en général la plus politisée, intermondialiste, etc. C'est une minorité, mais ça. Et il y a même dans cette minorité-là encore des trucs ambigus. Mais la question est posée, ça, systématiquement, ils sont confrontés à ça.
Mais pour répondre à ça, moi, il me vient un exemple particulier. La situation n'est pas vraiment la même que celle que tu évoques, parce que les licences, il y a encore beaucoup de travail à faire pour parler de ça formellement, que les étudiants comprennent bien. Moi, j'admets que il y a tellement de trucs. C'est là, mais on n'a pas encore vraiment à les radicaliser ça. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, mis à part la situation que tu évoquais, c'est-à-dire l'étudiant est dans un milieu open source, il prend beaucoup, et puis, qu'est-ce qu'il donne et comment il le donne? Alors, ça me fait penser donc à un cas d'un étudiant qui est sorti maintenant, l'an dernier, qui a réalisé un travail assez conséquent de visualisation de données, de data mining, un travail qui demande pas mal de communication PHP, processing, enfin des choses assez complexes. Et au début, tout était fermé, il ne publiait rien. Et puis, maintenant il est sorti et il a commencé à partager des bouts de code. Et j'ai compris deux choses. D'abord, ça prend du temps quand tu dois publier. Et donc tu réalises un travail, si tu veux le faire partager, il faut que tu sois conscient que le partage que tu fais doit être visible. Et donc, un an après, cet étudiant, il a publié son travail dans une logique de médiation de son travail. C'est-à-dire qu'il a préparé son travail pour qu'il soit médiatiquement utilisable, avec des explicatifs, des schémas et du code. Mais ça prend un temps de dingue. Alors, je ne suis même pas certain qu'en termes de licence, il s'est posé la question à l'instant. Mais le fait de publier lui a pris déjà beaucoup de temps. Mais c'est normal, je veux dire, un scientifique qui lui-même doit publier une thèse, il réfléchit à deux fois avant de la publier, et pourtant il travaille avec un savoir qui est partagé par une communauté qui accepte de partager ses sources et de citer, etc., parce que c'est grâce à ça que la science, enfin, on ne réinvente pas la roue tous les quarts d'heure. Et donc cet étudiant-là, il a mis un temps considérable à préparer, enfin il l'avait fait quand il a dû présenter son jury de fin de cycle à l'ERM, mais maintenant, comme il travaille dans d'autres sphères, il a vraiment préparé son boulot pour qu'il soit partagé. Ça c'est le premier truc. Mais le deuxième que tu évoquais, la licence de son travail, actuellement, je ne crois pas qu'il ait vraiment formellement adopté une licence, par exemple. Et ce sera encore un autre travail qui va suivre.
Je pense aussi que publier son code, le rendre ouvert et tout, c'est très responsabilisant aussi. Parce que
c'est ça, voilà.
Tu permets aux gens d'aller voir comment tu as fait. Hein. Franchement, en tant que prof, parfois, tu prends des risques. Hein, parce que tu bidouilles, tout ça. Voilà, ça marche un peu aussi. Donc, c'est aussi une attitude risquée, quoi. Donc, et là, on est tous déjà contents quand ça marche, mais alors quand on permet aux autres d'aller voir, de dire wow, t'as vu comment il a fait et tout, ouais. Il y a cet aspect aussi.
Oui, surtout dans le domaine de l'art,
oui,
tout arrive toujours, on ne sait pas comment. moi, je publie, par exemple, dans les travaux qu'on fait avec les étudiants, je publie que ce qui est commenté, qu'on sait comprendre, qu'on sait lire, après mes expérimentations bidons, où je montre et puis merde, aujourd'hui ça marche pas. comme tu dis, il y a une responsabilité de diffuser de l'information. Tu deviens toi-même un vecteur d'information. Il y en a qui sont pas regardants après, hein, qui publient n'importe quoi. Je sais pas si tu écoutes un journal à la radio ou à la télé ou tu lis un journal. Il y a des gens qui sont plus ou moins investis, qui sont plus ou moins investis d'une responsabilité, d'une qualité d'information. C'est le même cas pour les écoles d'art. Sinon, tu peux arroser n'importe comment. Enfin, ça ne va pas, quoi.
Il y a trois questions et après, peut-être, on doit passer à session après parce que on prend beaucoup de temps. Mais c'est excitant aussi.
On est là.
Oui,
c'est notre travail, c'est pas
parole.
Oui.
Moi, j'ai été. Je suis vraiment nouveau, c'est de donner aux gens les outils dont ils ont besoin. Et j'ai fait ça à l'ERIC, à Saint-Luc, il y a quelques temps. Et je sais. Moi, ce que j'aime bien entendre dans le discours aujourd'hui, c'est qu'il me fait plaisir, c'est d'entendre que ça a changé. Parce qu'au moment où j'y étais, moi, j'étais prêt à proposer du livre, etc. J'étais très ouvert à ça. Et la réponse que j'obtenais de tous les côtés était quand même fort négative. Et ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Moi, de mon point de vue, c'était désespérant de voir des gens ne pas réfléchir du tout sur leurs outils, mais à quelle fois, dans une école.
Mais les choses changent.
Ouais, mais ça n'a pas encore changé, mais c'est en train de changer.
Maintenant, je passe dans une agence et je vois la même chose, le même discours sur la professionnalisation et les outils. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les designers qui arrivent maintenant et qui ont eu, juste, même une fois, on leur a expliqué c'est quoi un logiciel libre et puis ils ont utilisé un outil. Ils ont déjà une attitude assez différente. C'est pour ça que si je continue à mettre des outils libres en place, ils ne sont pas utilisés, quoi. Ils sont utilisés par deux personnes sur 50. C'est quand même. Mais Ça, ça leur a pris même pas 5 ans. Donc voilà, je pense que là, la voie est ouverte et que les premières personnes qui rentrent là-dedans, ils ouvrent, c'est des portes béantes qui s'ouvrent.
Ouais, c'est des comme
ça. Ça peut aller très très vite après. Et voilà, c'est chouette.
Mais il faut quand même dire qu'on est, des professeurs en art numérique dans des sections, dans des écoles d'art, mais que Marc le premier et moi le second, c'est plein à un moment donné qu'on était d'autre part les personnes ressources tout azimut au niveau de l'informatique à l'intérieur de l'école. Mm-hmm. Ah, toi tu sais avoir une version craquée, enfin, ce qui est pas un problème, moi j'aiderais mon pire ennemi s'il me le demandait gentiment, mais à un moment donné, il y a... Il y a un problème dans les écoles d'art en général de percolation de ces savoirs-là dans les autres sections. C'est-à-dire qu'il y a une section communication, graphisme, dans laquelle les professeurs sont parfois très peu formés à l'outil informatique, les professeurs même. Donc certains ont dû être poussés au cul pour commencer à utiliser Illustrator et Photoshop. Donc ils faisaient confiance aux étudiants pour utiliser les outils, etc. Ce qui pose à un moment donné des problèmes, parce que quand un étudiant vous ramène une affiche qui a été faite avec... une image pourrie plus un plugin et pouce-bouton et qui donne un truc qui en jette, que les profs disent « Waouh, ça en jette ton truc », c'est-à-dire c'est contre-productif au niveau pédagogique parce que on est vraiment devant des solutions pouce-bouton. Et donc, dans l'école, on est une espèce de fer de lance, bien malgré nous. Moi, je n'ai jamais été un porteur de l'open source en soi. Je me suis découvert que je faisais ça
Moi, ça me fait penser quand même à une anecdote, mais qui va un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que l'école, à un moment donné, doit faire un site web. Toutes les écoles font ça. Et donc, l'ERG, comme toutes les écoles, mais de manière peut-être plus bordélique, il y a déjà eu un premier site qui faisait office de « oui, on a quand même un truc en ligne, je ne sais pas, c'était en… »
Un étudiant a fait un truc en flash.
Voilà, donc il y avait une capsule flash, toi qui était complètement autonome qui satisfaisait personne, bref. Donc la question d'un site a entraîné d'autres questions et on a opté pour faire un site qui reflète déjà un peu quelque chose, une communauté. Et donc Stéphane a développé un site en SPIP. Ça aurait pu être autre chose, mais le but étant... j'allais dire presque malgré les situations, de décliner l'idée qu'une école, c'est une communauté qui doit communiquer, débattre, etc. Et c'est une solution du livre qui a semblé être la plus appropriée. Maintenant, on pourrait dire qu'on ne voit pas forcément l'état d'esprit d'une école par son site ou par la technologie utilisée, mais dans une certaine mesure, moi je dirais que si. Voilà.
J'avais une remarque plutôt par rapport à ce que tu dis ou pas, parce qu'il peut y avoir aussi un télescopage intéressant entre des conceptions d'école, une conception d'artiste, des artistes qui créent, quoi, et alors tout le travail collaboratif dans le livre, parce que c'est peut-être une responsabilité publiée, mais c'est aussi intéressant de travailler, et bon, il faut pas. Il y a des procédures très très, codées aussi. Mais il y a aussi l'idée aussi de travailler essai-erreur, de mettre un code, parce qu'il y a une sorte de responsabilité, je dirais, collective qui existe. Et je me dis que ça peut être un choc de télescopage avec peut-être encore des idées qu'on a, des conceptions de l'artiste.
Exact.
Oui, tout à fait.
On est évidemment d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est responsabilisant. Tu t'exposes plus si tu travailles comme ça que si tu viens en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, si tu acceptes le dialogue, tu t'exposes plus que si...
Et ce qui est assez génial, c'est de remarquer aussi que la méthode et les questions fondamentales qui ont porté, par exemple, l'étudiant à développer un boulot, quand il doit transmettre lui-même son code, il doit assimiler lui-même les critères que sa méthode... personnel constitue, il doit les transmettre, et donc il y a une espèce d'effet récursif dans les comportements qui fait que pédagogiquement, de nouveau, ça devient super intéressant.
Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps avec toute la maturation des critères, ouais. Enfin, la prise de conscience des critères.
Bah, c'est responsabilisant, comme le disait Michel. Tu peux très bien balancer ton code qui va plus ou moins en te disant, bah oui, c'est de l'expérimentation. Mais dans un contexte, pour parler de ce qu'on connaît, hein, d'étudiants qui terminent, tu vois, qui ont des projets assez conséquents, bah, y a un seuil de qualité qui est souhaitable. Ça se passe même souvent dans des contextes de mémoire, de travaux qui sont parfois médiatisés, la plupart du temps médiatisés en dehors de l'école.
C'est une expérience assez commune quand on est producteur culturel ou même quand on aime des choses. Vous avez déjà fait l'expérience d'avoir un film que vous adorez, que vous regardez avec un copain que vous adorez, et la tiédeur, voire la froideur de votre ami vous fait regarder ce que vous aimiez, simple fait qu'il soit à côté de vous en train de regarder la même chose que vous. Dans cette absence d'enthousiasme qui est le vôtre, fait que d'un seul coup, ce film, cette chose, typiquement avec un film, devient, vous envoyez tous les défauts d'un seul coup. Et donc vous êtes là, oh merde. Et moi j'ai ça régulièrement parce que j'ai des amis très enthousiastes et je suis plutôt tiède. Mais voilà, cette expérience-là, on l'a dès qu'on veut publier son code, on regarde son code, on dit, oh putain, j'utilise trois variables pour stocker l'information que je pourrais stocker en une. Simplement parce que je me suis dit, waouh. J'en crée une à la volée, et donc du coup on se dit, je devrais faire ça un peu plus propre. Et donc soit à ce moment-là on a le coup de blues du 11h30 et on se dit, je ferai ça demain, soit on se lance dans le truc et on réécrit, etc. Mais c'est vrai que cette responsabilité engage aussi à une pratique de code un peu plus propre, de commentaires, le commentaire c'est un peu difficile, donc aussi parfois de redéployer le code, entrer dans des fonctions, des parties, etc. Donc le redistribuer de manière un peu plus lisible, et cette chose-là est hautement intéressante évidemment, parce qu'elle elle aide dans l'évolution de son propre codage, mais de fait elle représente une perte de temps quand on considère que ce qu'on voulait c'était obtenir un résultat qui est la génération d'une image avec une série de paramètres aléatoires et non aléatoires, ce genre de choses. Donc si ça produit un résultat quand on laisse tourner le truc, après retourner dans ce programme et même le recommander, le rendre plus propre, etc., il y a quelque chose qui peut être conçu dans les premières années comme quelque chose de très secondaire dans la pratique, alors qu'en effet elle a des vertus pédagogiques et même réflexive, assez intéressante.
Mais moi, l'exemple que tu prenais rapidement, si tu veux convaincre, tu peux être de mauvaise foi, tu vois, parce que tu es convaincu de quelque part de ta. Enfin, oui, de mauvaise foi. Ça n'empêche que quand tu publies quelque chose, les résultats sont les mêmes. Que tu veux convaincre ou que tu t'imprègnes d'un regard critique externe, qui dans le cas d'une publication, de toute façon, les deux cas sont là, bah, l'étudiant doit quand même. Structurer très fort son avis pour le faire valoir. Dans les deux cas, ben, tu vois ce que je veux dire. T'es sur la sellette quand tu lis ton code.
Puis tu fais l'expérience du leech, du mec qui vient juste prendre.
Oh, excusez-moi de faire le trouble fait, mais on va essayer de respecter plus ou moins ta ligne.
Voilà.
Donc, éventuellement, que c'est des gens qui ont envie d'en discuter, le fassent sur les tables qui sont libres autour du bar, qu'on puisse quand même essayer de respecter.
Oui, on a.
Une dernière question. Donc, vous utilisez le livre dans les écoles. On fait ici deux jours pour présenter le livre, etc. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir pour faire rentrer le livre, ou quels sont, à mon avis, les trois points où on peut aider pour que le livre rentre dans les écoles, que ce soit dans le fictionnable ou les.
Ça, c'est nos adresses.
Oui, ça.
Oui, tu crois ça. Oui. Bah, c'est une bonne question.
De manière concrète, je dirais que peut-être par rapport à ce projet Open Course, Open Source, c'est qu'on soit en contact et que dans la prochaine salve de propositions qui se feront dans l'année scolaire prochaine, il y ait peut-être des ponts qui se créent, des propositions ou des échanges de points de vue pour intégrer. Et enrichir ce type de projet, donc qui est une journée d'information itinérante qui va dans les écoles d'art, et la rendre possible, des occasions comme celle-ci, c'est justement l'occasion de fédérer les énergies pour les canaliser par cet intermédiaire.
Je crois que c'est exactement pourquoi nous sommes très heureux d'être ici. Merci.
Merci.